Duralex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est une constante en matière de sécurité. D'un côté, vous avez les travaux des chercheurs qui montrent qu'un durcissement des lois ne fait pas baisser la criminalité. D'un autre côté, pourtant, le législateur continue de renforcer les dispositifs existants. La fameuse loi sur les rodéos urbains, dont il a été beaucoup question cet été, a durci une loi qui existait déjà et avait fait passer ces rodéos d'une simple infraction au code de la route à un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. 4 ans après, les rodéos sont toujours là, même si les interpellations progressent. Cette loi n'est qu'un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'une sévérité accrue fait baisser la délinquance, quelle qu'elle soit ? Les lois les plus dures sont-elles les plus efficaces ? C'est notre menu du jour.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Avec 4 invités aujourd'hui. Bonjour Sébastien Rocher.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et criminologue, auteur de, entre autres, hein, La Nation inachevée, La jeunesse face à l'école et à la police est paru cette année aux éditions Grasset. Bonjour Samara Lambert.
Bonjour.
Vous êtes juge d'application des peines au tribunal de justice de Créteil et secrétaire national du syndicat de la magistrature. Jean-Philippe Degnaud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Chef du service police-justice à France Inter, président de l'association confraternelle de la presse judiciaire, et Stéphane Liévin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes policier et vice-président de l'association Agora des citoyens de la police et de la justice. Et puis sur l'appli de France Inter, évidemment, on continue. Hein. On attend vos messages, vos questions, vos réactions, vos commentaires. Sébastien Rocher, vous dites dans de nombreuses interviews, et vous l'avez écrit également, que l'annonce d'une loi dure ne dissuade pas le passage à l'acte violent.
Oui, on dit ça parce que la recherche permet aujourd'hui de l'affirmer. Il y a eu... Maintenant, à peu près 40 années de développement de la criminologie. Alors, moins en France, mais énormément à l'échelle de l'Europe et des États-Unis. Voilà. Et donc, sur la base de ces travaux, c'est pas une position, j'ai envie de dire, politique hein, que je tiens. Je pense qu'il faut verser ces éléments dans le débat politique qui est très important. Mais ce sont les résultats de la recherche qui montre que voilà, la sévérité pénale, c'est avant tout un jeu de théâtre. C'est-à-dire le ministre veut montrer qu'il se saisit du problème, veut montrer que le crime est moralement inacceptable. Et donc, à partir de là, il va proposer un durcissement de la loi qui est censé garantir la sécurité des citoyens. Mais encore une fois, c'est pas ce que montrent les recherches empiriques qui cherchent à vérifier ce type d'approche.
Alors, vous évoquez notamment des travaux qui ont été publiés l'an dernier par deux criminologues américains, dont la conclusion est augmenter la sévérité des peines n'est pas une approche efficace pour réduire la délinquance. Mais que disent exactement ces travaux ? Comment ont-ils fait pour arriver à cette conclusion ? Quel chemin ont-ils pris, ces criminologues américains ?
Alors, il y a en fait énormément de travaux qui ont été réalisés d'abord aux États-Unis depuis les années 80. Parce qu'aux États-Unis, dans les années 80, les conservateurs vont faire voter des lois qui sont beaucoup plus sévères, à la fois au niveau des États, et également au niveau fédéral. Et donc, l'étude de ces, on appelle ça des quasi-expériences, c'est comme des expériences médicales, hein, le fait que les gouvernements modifient les lois permet de regarder l'effet qu'ont les lois sur la criminalité. Et donc, il y a eu des dizaines et des dizaines d'études qui ont été faites sur ces changements, et on voit deux résultats principaux. Les États qui durcissent les lois ne connaissent pas de diminution de la délinquance plus importante que les autres États. Et les personnes qui sont soumises à des peines plus sévères, et particulièrement les jeunes, ne sont pas moins délinquants après avoir été plus sévèrement condamnés, mais ils sont plutôt plus délinquants et plus récidivistes. Hein. Donc voilà, la méthode, c'est la méthode qui s'approche des méthodes qui sont utilisées en médecine, l'approche expérimentale, par exemple, pour tester l'efficacité d'un vaccin. On compare ceux qui prennent le vaccin et ceux qui ne le prennent pas. Ben là, on compare les groupes de ceux qui sont exposés à ces lois et ceux qui ne sont pas exposés.
Jean-Philippe Degnaud, est-ce qu'on n'est pas, quand on parle comme ça de la criminalité, l'inévitabilité du durcissement des lois dans une dichotomie entre d'une part l'idéologie et d'autre part, ce que vient de nous décrire très bien Sébastien Rocher, la recherche.
Ben, tout à fait, il suffit. Bon, c'est vrai que moi je suis dans les tribunaux depuis plus de 20 ans en correctionnel et pour le criminel aux assises. Et il y a une constante, c'est-à-dire que quand on dit qu'on va durcir la loi, on fait une proposition raisonnable. On vous punit, vous ne réagissez pas, ben on va vous punir plus fort. Alors ça va marcher, par exemple, pour des délinquants, j'allais dire raisonnables. Je prends un exemple. Vous êtes pressé.
Qu'est-ce qu'un délinquant raisonnable?
Voilà. Vous êtes pressé, vous prenez autoroute, vous roulez à 150. Vous risquez un retrait d'un point sur votre permis, vous en avez 12, vous dites le jeu en vaut la chandelle. Un jour, on vous dit, eh ben maintenant, ça va être 6 points de retrait. Alors là, vous allez réfléchir et vous allez ramener votre vitesse à 130. Ça, c'est de la délinquance raisonnable. C'est-à-dire que l'auteur va se dire, bah non, là, je risque trop, je vais effectivement rentrer dans le rang. Mais dans les tribunaux, dans les cours d'assises, qu'est-ce qu'on voit? On voit des individus qui sont sortis du raisonnable, soit parce qu'ils vivent dans un environnement social dans lequel ils se sont persuadés que pour s'en sortir, ils ne pouvaient rien faire d'autre que contourner la loi, soit ce sont des délinquants ou des criminels qui, un jour, alors qu'ils n'y avaient même pas pensé quelques semaines avant, quelques jours avant, quelques secondes avant, vont basculer dans le délit ou dans le crime et donc vont également sortir du raisonnable pendant un temps, même si ce n'est qu'une fois dans leur vie. Mais ils sortent du raisonnable, c'est-à-dire que le discours raisonnable de leur dire « attention, si vous commettez tel crime ou tel délit, vous allez être puni encore plus gravement qu'avant », ça n'a aucun impact. Aucun impact.
D'autant que ces peines mettent un temps très long, peut-être même trop long, avant d'être appliquées, Samra Lambert.
Oui, alors effectivement, quand on parle de est-ce que la loi fait baisser la criminalité, il faut voir qu'est-ce qu'on attend comme objectif de la loi. Et ce que vous dites sur le délinquant, c'est extrêmement important, parce que nous, notre travail, c'est d'individualiser.
Vous êtes juge, hein,
je suis juge de l'application des peines. Notre travail, c'est d'individualiser une peine. Or, le passage à l'acte, il est multifactoriel. Donc, on va pas avoir une personne en face de nous qui va venir nous dire « oui, j'ai fait la balance risque sur ce que j'encourais comme peine ». Et donc, j'ai décidé de passer à l'acte. Le passage à l'acte est multifactoriel, il dépend d'un contexte économique, social, sanitaire, d'addiction ou pas. Et notre travail, nous, en tant que juge, c'est d'individualiser la peine pour pouvoir apporter la peine la plus en adéquation avec la situation de la personne, ce qui suppose d'évaluer la situation de la personne. Effectivement, on a un certain nombre de tribunaux où on a un retard. Bon, en l'occurrence, à Créteil, c'est le cas et on en a parlé il y a peu dans les médias, un retard au niveau de l'exécution des peines. C'est-à-dire qu'on va prononcer des peines qui, donc au moment de l'audience, qui derrière ne vont pas être soit tapées, c'est-à-dire que le jugement ne va pas être tapé, soit ensuite être exécuté dans le sens où le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines pour qu'il y ait une exécution. C'est-à-dire que là, on est encore à un autre stade, on est sur tout ce qui se passe après, j'ai envie de dire l'envers du décor, même si voilà, c'est pas forcément le terme exact, mais tout ce qui se passe après qu'on ne voit plus, donc au sortir de l'audience, quand on prend en charge la personne qui a été condamnée. Et cette étape-là, du fait des stocks importants, on va faire de la comparution immédiate à tour de bras, on ne peut plus derrière suivre, et donc on s'auto-alimente dans le sens où la personne va revenir devant les tribunaux alors même qu'elle aura été condamnée à un suivi, mais qu'on n'aura pas mis en place ce suivi, faute d'avoir justement tapé le jugement, saisi le juge de l'application des peines, mis les moyens sur ce volet-là.
C'est vrai que ça peut être contre-productif, Stéphane Liévin, vous qui êtes policier, ce délai immense qu'il y a, aussi bien d'ailleurs pour la partie civile, pour les plaignants, que pour les condamnés.
C'est ce qui est effectivement souvent complexe à comprendre pour les policiers de terrain, c'est-à-dire que entre le moment où ils interpellent, le temps qu'ils passent à rédiger une procédure, à mener des investigations qui sont souvent nécessaires dans les affaires qu'ils ont à traiter, de comprendre que le délai de déjà pour que la sanction elle-même soit prononcée, puisque il faut quelquefois, lorsque la personne est convoquée, plusieurs mois avant qu'elle comparaisse devant un tribunal correctionnel. Et ensuite, entre le moment où la sanction est prononcée et le moment où elle a effectivement une action, c'est-à-dire la personne est incarcérée ou d'autres types de condamnations, évidemment, puisqu'il n'y a pas que l'incarcération. Et nous, à l'Agora des citoyens de la police et de la justice, notre travail, c'est aussi de se rencontrer des policiers qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qui se disent, mais à quoi bon, en fait, hein, interpeller, à quoi bon continuer à traiter la délinquance quand, par ailleurs, on attend des mois à obtenir une décision Ben, notre travail, c'est le travail qu'on s'est, les buts qu'on s'est donnés à la CPJ, c'est de créer un terrain justement où magistrats, policiers, citoyens puissent discuter de toutes ces problématiques et en comprendre la complexité.
Alors, les policiers, comme les Français d'ailleurs, hein, trouvent que la justice est trop lente, à 93%, hein, selon un récent sondage commandé par le Sénat. Mais quand vous dites à quoi bon, ben justement, qu'est-ce que vous répondez aux policiers qui se tournent vers vous en disant mais c'est trop long, à quoi bon?
On leur répond que, enfin, ce sont précisément les magistrats qui viennent dans les espaces de discussion concrets leur répondre en leur disant mais vous, vos réalités de terrain sont celles que vous décrivez, c'est-à-dire les difficultés, parce qu'il faut aussi que les magistrats entendent les difficultés des policiers sur le terrain. On en prend acte, mais prenez aussi acte que nous, nos difficultés, ce sont celles-ci, les manques de moyens essentiellement, le manque de moyens en termes de solutions autres que l'incarcération, par exemple.
On Il faudrait d'autres types de peines?
Bien sûr, oui. Je pense que là-dessus, un certain nombre d'essais qui ont été faits à l'étranger ont montré leurs preuves. Les TIG sont pas miraculeux, par exemple. Les travaux d'intérêt général pour des jeunes qui sont primo-délinquants, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de réparer d'une manière manuelle auprès d'un service, de d'effectuer un travail qui va lui permettre de comprendre que ce qu'il a fait peut être réparé et doit être réparé et peut avoir un coût pour la société. Oui.
Alors, je voudrais vous faire écouter ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au sujet justement de l'efficacité de la loi vis-à-vis des rodéos urbains dont on a beaucoup parlé cet été.
On n'a pas faibli. En 2021, on a été à 9800 contrôles dans l'année, avec déjà j'ai noté les chiffres, 1345 interpellations pour des gens qui étaient responsables de rodéos. Et déjà cette année, alors que nous sommes au moitié de l'année 2022, on est à 16 000 opérations. Et nous avons déjà 2200 interpellés et 1800 engins saisis. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait un certain nombre de personnes, et je crois qu'il faut écouter les Français lorsqu'ils nous disent qu'il faut qu'on soit encore plus ferme, encore plus d'autorité, pour que nous puissions intensifier nos actions contre les rodéos. Le Parlement nous a donné une nouvelle loi qui permet notamment la saisie et destruction de la quasi-intégralité des motos, des quads, des voitures parfois que nous arrêtons. Et il faut pouvoir multiplier ces opérations.
Sébastien Rocher, quand on entend que la réponse finalement apportée au rodéo urbain pour le ministre de l'Intérieur, ce sont des contrôles supplémentaires, et qu'on lit dans vos travaux que vous avez apporté la preuve que ces contrôles sont eux aussi inefficaces pour réduire la délinquance, qu'est-ce qu'il faut en conclure ?
Alors, les ministres sont dans une position difficile. Ils doivent montrer leur valeur aux Français et ils ne disposent pas des outils pour répondre au problème. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur est impuissant face à la délinquance, très largement. Il a de toutes petites marges de manœuvre. La délinquance est d'abord déterminée par l'économie, par l'État-providence. Donc le ministre, il joue le rôle de celui qui peut sans pouvoir. Et c'est ça qui l'amène à essayer de montrer sa détermination à travers la fermeté. Et ce qui est très indicatif, je trouve, de cette difficulté, c'est que le ministre confond les moyens, la consommation des moyens et les résultats. Dire qu'on a interpellé des personnes, c'est dire qu'on a consommé des moyens de la police et des heures fonctionnaires qui sont sur le terrain pour interpeller, puis ensuite rédiger les différents actes de procédure. Mais montrer qu'on a beaucoup dépensé d'argent, c'est pas montrer qu'on est efficace. Et le ministre ne dispose pas lui-même des mesures de l'efficacité. Tout ce qu'il peut dire, c'est on a mis beaucoup de fonctionnaires dehors. Et d'ailleurs, c'est l'essentiel du discours qui va tenir. Voilà. Ce qu'il faut, c'est prendre une mesure du problème lui-même pour savoir si on va le réduire ou pas. Vous avez l'exemple de la santé. Une politique de santé efficace, c'est une politique qui fait que les gens vivent plus longtemps. Donc on a une mesure de la durée de vie, ou qui tombe moins gravement malade du Covid. Et là, on a une mesure du nombre d'hospitalisations graves du Covid. Mais le ministère de l'Intérieur, lui, n'a pas ces outils de pilotage.
Sur franceinter.fr et sur l'appli de France Inter, Francine nous écrit « On aura beau durcir les lois, elles ne sont pas appliquées. Qui a déjà entendu un jeune faisant du rodéo tous les soirs dans une cité condamnée à un an de prison ? Ce qui est pourtant dit dans la loi. Laurent nous dit « Attention, la loi n'est qu'un outil. La peur du gendarme et de l'autorité doit revenir. Sylvie, la loi c'est une chose, l'application en est une autre et c'est par là que ça pêche. La puissance publique n'est pas crédible, Samra Lambert. »
Oui, alors sur cette question, il faut quand même rappeler que le volet répressif, c'est qu'un aspect de la réponse à apporter. En l'occurrence, effectivement, les chiffres qui sont avancés montrent une chose, hein, c'est que la pénalisation, ça n'a pas modifié les pratiques, puisqu'on est toujours à parler des rodéos, et pour parler des rodéos, il faut ouvrir le champ, en tout cas sortir de cette conception uniquement répressive, puisque cela ne fonctionne pas, hein, c'est comme pour l'usage des stupéfiants, mais on pourra en reparler. Là, on parle d'un fait social, avec une vision pénaliste, donc une vision court-termiste et en plus contre-productive, puisqu'elle, cette pratique qui s'explique de différentes manières, dont la transgression adolescente, une réponse à la ghettoisation, on y donne une réponse uniquement de sanction, sans prendre en compte justement toute cette acception beaucoup plus large qui nécessiterait de mettre en place des politiques publiques et donc d'investir un autre champ que le volet répressif.
Ce qu'on a du mal à saisir, Jean-Philippe Deniau, c'est que, bon, on vient de faire le constat durant les 20 premières minutes de cette émission que ça ne fonctionnait pas et que pourtant, on persiste dans ce non-fonctionnement.
Oui, parce que y a une volonté politique. Mais il y a une petite musique d'ailleurs intéressante dans le discours qu'on vient d'entendre de Gérald Darmanin. C'est-à-dire, il nous dit aux Français, il dit aux Français regardez, on a mis les moyens, on a procédé à des arrestations. Sous-entendu, s'il n'y a pas des condamnations derrière, alors c'est parce que la justice ne fait rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout de la chaîne, la justice qui va être soumise à des dossiers sûrement plus nombreux cet été ou à la rentrée sur les incendies de forêt, sur les rodéos, tous les phénomènes de l'été qui ont été dénoncés, elle ne peut pas, parce que c'est un phénomène cet été, procéder à des condamnations deux fois plus sévères que celles qui ont été prononcées l'été dernier, par exemple, sur le même type de délit, parce que ce n'était pas un délit médiatique il y a un an. Si vous voulez, il y a une échelle des peines à respecter. Ou alors, on condamne directement tout le monde à la peine maximale encourue. Et puis, dans ce cas-là, ben, voilà, la justice, elle traite des dossiers individuels. Elle ne traite pas des phénomènes de société.
Pierre nous dit « Rien ne sert de durcir les lois si on n'applique pas celles qui sont existantes. Si on ne poursuit pas les crimes et les délits au regard des textes déjà existants, faute de moyens policiers et judiciaires, durcir la loi me semble être une inflation verbale politique. » Et puis Anne-Claire qui nous dit sensiblement la même chose. Hein, les lois seraient peut-être plus efficaces si elles étaient acceptées. La question justement de la dureté des lois, c'est celle qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. Les lois dures sont-elles les plus efficaces ? On attend toujours vos réactions sur l'appli de France Inter. Le débat de midi, c'est un travail d'équipe. Théo Raison à la réalisation, aidé par Benjamin Woodcock. À la technique aujourd'hui, c'est Clément Vuillet. À la préparation, Victorien Thomas, Stéphanie Valois, avec l'aide d'Anaïs Poncin et Pénélope Tricard. Et la programmation musicale est signée Juliette L'Orphelin. Merci à vous tous. Come on, fuck off, get gone. Heard you lied to the major. Les Irlandais post-punk de Fontaines D.C. Toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de France Inter.
Le débat de midi. Sur France Inter.
Quatre invités aujourd'hui pour parler des lois. Sébastien Rocher, sociologue. Samra Lambert, qui est juge d'application des peines. Jean-Philippe Degnaud, le chef du service police-justice à France Inter. Et Stéphane Liévin, qui est policier et vice-président de l'association Agora des citoyens de la police et de la justice. Et puis, ces messages qui continuent de nous arriver sur l'appli de France Inter. Bernard nous dit avoir des lois de circonstance avec des réflexions à court terme pour satisfaire un électorat au lieu de réfléchir à long terme et en prenant toutes les mesures annexes. Romain, qui nous dit en Suisse, la loi est beaucoup moins répressive, mais plus de moyens sur la prévention et cela marche mieux. Et puis Gilbert dit, je pense que ce débat est parfaitement inaudible pour des gens qui vivent dans certains quartiers et qui sont des victimes. Vous êtes hors sol. Stéphane Liévin, quand vous avez commencé votre carrière de policier, vous étiez ce qu'on appelle ilotier, c'est-à-dire que vous étiez en permanence au contact de la population de ces quartiers difficiles dont parle Gilbert dans son message.
Absolument, c'est ce qu'on appelait la police de proximité, effectivement, hein, alors, qui a formalisé ce qui existait déjà, qui était effectivement l'îlotage, qui permettait aux policiers de connaître son quartier, de connaître les habitants qui résident, les élus, les commerçants, les gardiens d'immeubles, les jeunes de quartier, qui soient délinquants ou pas d'ailleurs, leur famille, et ce qui permettait effectivement une politique sécuritaire efficace sur un quartier, pour des raisons idéologiques qui tenaient au fait que cette police de proximité aurait été preuve d'un certain laxisme, a hélas mis fin à ce dispositif. C'est dommage, nous, à la CPJ, tous les policiers qu'on reçoit et qu'on entend nous disent bien qu'il faudrait effectivement ce retour à cette police de proximité qui est pas non...
Oui, il y a la police de sécurité du quotidien qui existe maintenant, qui a été mise en place, qui était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017.
Ouais, mais qui reste quand même... Alors, qui est une bonne chose, évidemment, tout ce qui va dans ce sens-là est bon à prendre, mais qui reste quand même largement soumis à la politique du chiffre auquel les policiers sont soumis depuis une vingtaine d'années maintenant, et pour or pour mener une action féconde sur un quartier donné, il faut du temps, il faut laisser du temps au temps et du temps aux policiers pour s'installer, pour se faire connaître, pour gagner la confiance des citoyens et obtenir, alors non pas pour une non-action, au contraire, hein, pour mener également de la répression, de la prévention, pour que la police marche sur ses deux pieds, parce que c'est absolument nécessaire.
Sébastien Rocher, dans vos travaux, vous montrez aussi que l'équation plus de policiers et plus de places en prison égale moins de délits ne fonctionne pas.
Oui, alors j'ai rappelé ça parce que aujourd'hui l'essentiel des promesses politiques qui sont faites, c'est d'augmenter le nombre de policiers sur le terrain et d'augmenter le nombre de places de prison. Or, ce sont deux choses qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Tout dépend. Les policiers, c'est des personnes humaines comme vous et moi. Et leur compétence va être liée à leur formation. De plus, leur capacité d'action va être liée aux outils dont ils disposent. Et enfin, tout va dépendre d'une stratégie de police, une stratégie de contrôle, et c'est ce que M. Liévin a rappelé. Il faut avoir une stratégie pour utiliser les ressources. Donc, c'est pas juste une question de moyens. Et même chose côté prison. l'idée qu'on va avoir beaucoup de places de prison, et ben que ça serait ça la solution à la délinquance, c'est quelque chose qui n'est pas vérifié par la recherche. Vous voyez des pays comme les États-Unis, qui sont des pays qui incarcèrent 6 fois plus que la France. C'est énorme. Il faudrait construire 6 fois le parc de prison qu'on a aujourd'hui pour atteindre les taux américains d'incarcération, avec une criminalité violente qui est tout à fait galopante. Donc je pense que c'est vraiment urgent de regarder l'ensemble des causes et d'avoir une politique de sécurité qui n'est pas la politique du ministère de l'Intérieur, mais qui est une politique interministérielle.
Puisqu'on parle de la prison, peut-être un mot, Samara Lambert, sur ces images qui font polémique là, de karting qu'on a vu ce week-end tourner à la prison de Fresnes.
Alors, pour parler déjà plus globalement de la prison et rebondir effectivement sur les propos qui viennent d'être tenus, la réalité de cet empilement législatif et de l'empilement des infractions pénales, c'est qu'on a une inflation carcérale. Il y a de plus en plus de faits qui sont pénalisés, de plus en plus de personnes en prison. D'ailleurs, la France, c'est le seul pays qui a vu sa population pénale augmenter. Et pour nous...
Le seul pays européen.
Européen, pardon. Pour nous, c'est pas sans poser difficulté, parce que notre travail, c'est quand même d'individualiser, de trouver la solution juridique la plus adéquate à la personne, et donc de faire du sur-mesure au niveau du suivi. Ça, c'est plus possible. En tout cas, c'est rendu extrêmement compliqué de par cette surpopulation carcérale, de faire de l'individualisation et du travail autour de la personne, de mener des actions en détention au titre de la réinsertion, et des actions qui ne soient pas que collectives, mais également individuelles.
Jean-Philippe Degnaud.
Oui, ce qui est triste, c'est quand on parle d'augmenter le nombre de places en prison, ce n'est pas pour éviter qu'il y ait de la surpopulation dans les établissements existants, mais c'est pour, en tout cas l'objectif affiché, c'est pour pouvoir incarcérer davantage encore. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est peut-être de regarder aussi des phénomènes qui n'apparaissent pas comme ça. Je vais prendre les phénomènes des cambriolages, par exemple. La loi sur les cambriolages, globalement, n'a pas évolué. Les peines ne sont pas plus sévères au fil des années. Pourtant, les cambriolages diminuent régulièrement dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Ils diminuent pourquoi ? Parce que le cambrioleur, bon, il y a une prise de risque, évidemment, par rapport à la peine qu'il va encourir, mais pas seulement, par rapport au simple fait de se faire attraper. Et là, les techniques de surveillance et d'interpellation ont énormément évolué ces dernières années, avec l'ADN, avec la vidéosurveillance, avec la téléphonie. Évidemment, il y a plus de risques aujourd'hui qu'il y a 20 ans pour un cambrioleur de se faire attraper. Donc finalement, ça va être la peur de se faire attraper, non pas de se faire punir plus gravement, qui va jouer sur cette statistique-là. Donc, c'est pas forcément l'aggravation des peines.
Je me rends compte, Samara Lambert, que vous n'avez rien dit finalement sur la vidéo du karting à Fresnes.
Ben, on peut y revenir. Hein. La difficulté, c'est pas telle ou telle activité, en fait. Là, cette activité, en tout cas à Koh-Lanta, l'idée, c'est de créer du lien, de faire se parler les surveillants, les détenus, avec également des jeunes de la cité. C'est des projets qui sont porteurs au niveau du lien, justement, porteurs au niveau de la réinsertion de ces détenus, qui sont pensés en amont avant d'être mis en œuvre, autorisés par ailleurs, et qui sont co-construits. Ça permet aux détenus et aux surveillants de se parler dans un autre cadre, et c'est ça aussi, faire du lien social dans la prison. Là, en l'occurrence, le projet a lieu en prison, mais il y a des projets qui existent à l'extérieur, et on ne peut pas dire que faire du kart, c'est moins réinsérant parce que c'est une activité sportive de loisir que effectivement de monter une pièce de théâtre. Il n'y a pas de gradation, il n'y a pas d'œuvre, en tout cas d'investissement plus légitime qu'un autre, dès lors que le but, c'est de créer du lien.
Stéphane Hivert.
Oui, et tout simplement aussi s'intéresser à ce qui fonctionne. Je crois qu'il faut sortir un peu des idéologies sur ces sujets sécuritaires. Une loi toujours plus dure, un fait divers égale une loi. Enfin, il faut un peu sortir de ça pour essayer de voir ce qui fonctionne. Des idéologies qui veulent que le problème de la police, c'est la justice. Enfin, il faut sortir de tout ça. Et à un moment donné, mettre les choses à plat. Voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne dans une politique répressive, qu'est-ce qui fonctionne ailleurs ou même chez nous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et en tirer les conséquences, en donner davantage de moyens, encore une fois, à un délinquant, c'est quelqu'un qui doit être interpellé par la police, qui doit être présenté à la justice, qui doit faire l'objet d'une décision, qu'est-ce qui fera que ce délinquant-là ne recommencera pas à commettre ses faits, comprendra qu'il doit être sanctionné pour ces derniers, et sanctionné à la même hauteur que n'importe n'importe quel autre citoyen en fonction, encore une fois, de sa personnalité aussi.
Sébastien Rocher, sur cette thématique de la prison, du karting, de la réinsertion et aussi de l'idéologie qu'il y a derrière.
Alors, je pense que peut-être une chose qu'il est utile de savoir, c'est que plus les conditions de détention sont mauvaises, plus la récidive est élevée. C'est-à-dire que plus on se trouve dans des établissements, par exemple pour les jeunes qui veulent imiter les camps militaires, c'est les fameux boot camps aux États-Unis, on se dit qu'on va imposer par la discipline physique, par la contrainte physique, une transformation dans la tête des personnes qui sont détenues. Et donc, si on contraint physiquement les gens, ils vont apprendre à être contraints, ils vont se soumettre. Mais la prison, en fait, ne fonctionne pas comme ça. Si vous contraignez quelqu'un pendant un certain temps, c'est comme un ressort. Hein, vous appuyez sur le ressort, mais quand vous arrêtez de contraindre, le ressort prend sa forme initiale. Ce qui va changer le comportement des personnes qui sont condamnées, ou même d'ailleurs de celles qui ne sont pas condamnées, c'est les liens sociaux qui vont développer. C'est-à-dire que si en prison... vous êtes complètement isolé, vous avez très peu de chances de vous réinsérer. Quand vous sortez de prison, vous n'êtes pas aidé, y compris matériellement, à vous réinsérer, il y a plus de chances que vous soyez récidiviste. Oui. Donc moi, je trouve que les activités qui permettent aux gens de supporter mieux leur incarcération ne doivent pas être jugées, je dirais, en deux tweets et une vidéo de 10 secondes. Il faut regarder le projet qu'il y a derrière. Je suis persuadé que ce projet a été complètement autorisé, évalué et autorisé par l'administration pénitentiaire.
En tout cas, c'est le cas. Il a bien été autorisé par la chancellerie. Hein. Jean-Philippe Deniau, vous
oui,
me rappelez,
oui,
si
oui,
je me trompe.
Oui, tout à fait. Rappelons qu'il mettait en scène, entre guillemets, des détenus de courte peine, donc des petits délinquants, on va dire, qui étaient évidemment dans une démarche totalement positive en détention. Voilà, c'est une activité exceptionnelle, mais il y a eu à Fresnes cette année une pièce de théâtre, il y a eu un concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans les murs de la prison de Fresnes, et il y a eu un tournoi inter-établissement de football. Voilà, ce sont des activités qui ne concernent que très très peu de détenus, parce que très peu sont accessibles à ce genre d'activités, mais qui permettent de mettre du lien un jour dans l'année entre des détenus, des surveillants, les conditions de vie, de travail des surveillants sont tout aussi déplorables que celles que vivent les détenus. Et voilà, il y a une démarche. En plus, il y avait cette opération permettait de récolter de l'argent pour offrir à 3 associations. Donc voilà, il y a toute une démarche construite autour de Collantès.
Samra Lambert.
Et c'est d'autant plus dommage d'en arriver à ce type de polémique, encore plus, je dirais, sur un établissement tel que Fresnes, qui nous a valu, nous la France, d'être condamnés il y a 2 ans pour ces conditions de détention. Ce que rappelle d'ailleurs cet épisode...
Condamné par...
La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, ce que rappelle d'ailleurs l'épisode, puisque sont interrogés les détenus et les surveillants, qui rappellent les conditions dans lesquelles ils évoluent, à savoir des rats, des punaises de lit, et que personne ne s'en émoie, ne sait moi non plus des 3 douches par semaine que les détenus peuvent prendre en plein été caniculaire.
Et le Conseil d'État, rappelons-le, au mois d'octobre dernier, a également condamné l'État pour effectuer des travaux en urgence à la prison de Fresnes.
Alors je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un reportage diffusé vendredi dernier dans le JT de TF1 de 13h.
Il est 5:05 quand 4 policiers s'apprêtent à contrôler un véhicule signalé volé sur ce parking. Selon la police, le conducteur enclenche alors la marche arrière et percute un des fonctionnaires qui se retrouve projeté sur le capot. 2 policiers ouvrent alors le feu à plusieurs reprises sur le conducteur et le passager de la voiture.
Là aussi, cet été, cette année, malheureusement, beaucoup de faits comme ça, de refus d'obtempérer, on fait la une de l'actualité. Vous rappelez, Sébastien Rocher, que d'une manière générale, les tirs sur les véhicules en mouvement ont augmenté ces dernières années.
Oui, c'est ce qu'on observe, et que le nombre de décès à la suite de ces tirs a considérablement augmenté. C'est évidemment un problème, parce que le premier des droits, c'est le droit à la vie, et le fait de commettre une infraction n'est pas normalement susceptible d'une condamnation à mort. Donc on a là un développement de pratiques, alors qui a été d'ailleurs enregistré, y compris par l'inspection générale de la police nationale, dans son rapport annuel, qui a montré l'élévation du nombre de tirs. Mais au-delà du nombre de tirs, il y a une élévation du nombre de décès. Et pas mal de voix s'étaient opposées à la modification de la loi en France en février 2017, qui permettait ces tirs et qui avait modifié la loi française, qui était fondée sur la légitime défense, en ajoutant un article qui est assez obscur parce que il autorise le policier à faire usage de son arme s'il anticipe que le conducteur de la voiture pourrait avoir dans le futur un comportement particulièrement grave. Et moi, je vois pas comment quelqu'un en plus en stress dans une situation d'urgence va pouvoir se poser la question de savoir quelles vont être peut-être plus tard les conséquences très graves. Et donc là, il y a un flou juridique qui a été introduit et qui malheureusement se traduit par un grand nombre de décès. Et là, je pense, à nouveau, il faut être très pragmatique et pratique. Il faut observer les résultats de cette transformation de la loi. Il faut d'abord la confirmer par des analyses statistiques, hein, qui n'ont pas encore été produites, pas été publiées. Et ensuite, à partir de ces résultats des analyses, il faut faire un diagnostic de savoir si on a fait une bonne ou une mauvaise loi. Et si la loi n'est pas bonne, il est utile d'essayer de la corriger.
Stéphane Liévin, dans quel cas, justement, un policier peut-il faire usage de son arme ?
Alors, comme tout d'abord, dire par rapport à ce que vient de dire M. Rocher, que j'ai pas rencontré et j'ai pas travaillé avec en 25 ans de carrière, un fonctionnaire de police qui faisait usage de son arme par plaisir. Voilà. À chaque fois qu'un fonctionnaire de police fait usage de son arme, c'est dans un cadre juridique, alors qui est ensuite démontré ou pas. Il peut y avoir une erreur d'interprétation, il peut y avoir des circonstances qui font que l'usage de l'arme était inapproprié. Mais à chaque fois, en tout cas, il le fait parce que il considère qu'il doit défendre sa propre vie ou celle d'autrui. Ensuite, le cadre juridique, il a effectivement évolué, puisqu'on était autrefois dans un cadre juridique qui concernait l'ensemble de nos concitoyens, à savoir la légitime défense. On est passé à un cadre juridique... Alors, la légitime défense existe toujours, hein, l'article du code de procédure pénale, mais le code de la sécurité intérieure a pris un certain nombre de dispositions pour harmoniser l'usage des armes entre gendarmerie et police notamment, puisqu'il y avait des textes un peu différents. Voilà. Donc il a permis l'usage des armes dans des cas spécifiques. Alors, j'ai pas la liste en tête très exactement, mais notamment sur la problématique de périple meurtrier, voilà, d'une personne qui serait susceptible, par exemple, de percuter d'autres personnes avec son véhicule dans le cadre de rodéo ou de refus d'obtempérer, par exemple. Voilà. Après, qui est nécessité d'évaluer effectivement cette évolution législative, personne n'en disconvient. Hein. Moi, je pense que ça peut être intéressant également pour les policiers, parce que il échappe à personne qu'ils sont mis en cause lorsque une affaire comme celle-là éclate. Ils sont livrés à la vindicte populaire, alors même que l'enquête n'a pas encore eu lieu. Ils sont quelquefois sous le coup de l'enquête pendant des années et des années. Ça peut durer 5-6 ans, une instruction sur un sujet pareil. C'est 5-6 années au cours de laquelle, non seulement le fonctionnaire de police va devoir assumer éventuellement d'avoir supprimé la vie d'autrui, mais en plus va devoir assumer toute l'enquête et toute l'épée qu'il a au-dessus de la tête durant toutes ces années. Donc c'est effectivement complexe.
Jean-Philippe Denis.
Oui, au-delà des statistiques, il faut en revenir à cette idée que c'est à la justice d'établir la réalité de ce qui s'est passé. Je vais prendre un exemple. Ces dernières années, on a beaucoup parlé des violences policières en manifestation, je mets des guillemets, bien évidemment. On va avoir cet automne, devant deux cours d'assises à Paris et à Reims, deux policiers qui sont renvoyés, donc qui vont être accusés pour avoir éborgné à Paris un manifestant, à Reims un supporter de foot. Ce sont deux cas très précis dans lesquels la justice a estimé qu'il y avait eu un usage disproportionné de la force. Un coup de matraque qui n'aurait pas dû tomber dans un cas et une grenade de désencerclement que le policier est accusé d'avoir lancé inopinément et sans en avoir reçu l'ordre et de manière totalement disproportionnée et très mal fait. Enfin, lancé en cloche au lieu de lancer. Bon, et ce sont deux cas. Voilà. Dans tous les autres cas, la justice a renvoyé les dossiers vers d'autres juridictions ou a clos le dossier sans qu'il y ait de poursuite. Donc, il faut sortir de ces phénomènes que l'on crée, nous aussi, médias, hein, des phénomènes, mais qui sont lancés par la volonté politique. On va lutter contre les rodéos, donc d'un seul coup, il faut que tous les auteurs de rodéos se retrouvent condamnés tout de suite, très vite et très fort. Non, la justice est là pour dire « je prends les dossiers, je regarde ce qu'il y a dedans et on décide ».
Sur l'appli de France Inter, Jean-Luc, qui est policier de PJ à la retraite, dit « ce n'est pas la gravité de la peine qui importe, mais sa certitude. Romain, la prévention et la pédagogie sont efficaces pour une loi non mesurée et répressive ». Et puis Miloche qui nous dit « il est essentiel que la délinquance soit entendue par des médias comme France Inter en termes de reconnaissance. Il ne s'agit pas de chiffrer, mais de reconnaître. Duralex, sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Les lois les plus dures sont-elles les plus efficaces ?» C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On attend toujours vos réactions sur l'appli de France Inter.
Tout n'est pas clair.
Tu me plais, le nouveau single de Juliette Armanet.
France Inter. Le débat de midi. Thomas Chauvineau.
Et on s'intéresse aujourd'hui aux lois avec cette question. Les lois les plus dures sont-elles les plus efficaces? Avec quatre invités, Sébastien Rocher qui est sociologue, Samra Lambert, juge d'application des peines, Jean-Philippe Degnaud, journaliste du chef du service police-justice à France Inter, et Stéphane Liévin, policier et vice-président de l'association Agora des citoyens de la police et de la justice. Et puis ces messages qui continuent de nous arriver. Philippe nous dit « Les lois contre le cannabis sont les plus répressives d'Europe et nous avons pourtant le plus grand nombre de fumeurs en France. Cherchez l'erreur. » Cyril qui nous dit « Les peines n'ont pas comme seul objectif de faire changer le condamné et le long terme, mais aussi et surtout de protéger immédiatement la société, rendre justice aux victimes et dire le droit symboliquement à la société. Et ces objectifs devraient être prioritaires pour moi, Sébastien. Si un projet de société existait qui soit basé réellement sur la bienveillance et non pas sur la compétition, l'optimisation fiscale ou la prime aux plus méchants, alors nous ne parlerions même pas de la dureté des lois. Celle-ci ne serait qu'un accessoire pour parfaire la société. » Et puis Breuil qui nous dit, avec un discours comme j'entends sur celui de votre antenne, vite à droite, toutes. Et c'est vrai qu'on est toujours dans une, enfin, vous l'évoquiez en début d'émission, Sébastien Rocher, mais dans une forme d'idéologie, hein, dès qu'on parle de la dureté de la loi.
Oui, parce qu'il y a vraiment deux débats qui sont parallèles, et c'est très bien exprimé par cet auditeur. Il veut entendre un discours de sévérité parce qu'il croit que ça équivaut à de la protection. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve et que connaissent bien les élus locaux également. Les citoyens demandent plus de police, plus de sanctions, parce que dans leur esprit, c'est ça que l'État est capable de leur apporter pour leur sécurité. Mais le problème, c'est qu'ils ont tort. C'est ça la difficulté, c'est que cette sévérité, bon, ça a été l'objet de toute cette émission, ne va pas leur apporter de protection. Donc on est vraiment sur un grand malentendu, et on confond la morale, dire quelque chose est mal, avec l'efficacité, qui est complètement autre chose, c'est la capacité de modifier une situation qui n'est pas désirable.
Sabra Lambert.
Oui, effectivement, on raisonne en fait en termes d'échelle, c'est-à-dire d'une échelle qu'on monte. Hein. L'idée serait de dire, la personne d'abord passe devant le tribunal, elle prend un sursis, puis un sursis avec une mise à l'épreuve, puis la prison. Et cette manière de raisonner en termes d'échelle qu'on grimpe fausse l'individualisation, et cette idée autour de l'individualisation et de la nécessité pour nous de traiter un dossier qu'on a étudié, une situation particulière. On peut se dire qu'il faut penser non pas verticalité mais horizontalité, pluridisciplinarité. Il faut en fait penser en termes de personnes qu'on a en face de nous et évaluer ces problématiques pour pouvoir apporter une réponse adéquate. Mettre quelqu'un en prison alors qu'elle aurait besoin à ce moment-là d'un travail d'intérêt général, c'est inopportun, ça la désociabilise, là où le travail d'intérêt général lui aurait permis de reprendre goût, intérêt à travailler au sein de cette société.
Oui. Jérôme nous demande justement, a-t-on un retour d'expérience sur ces peines type travaux d'intérêt général et sur leur efficacité ?
Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les peines de suivi en milieu ouvert entraînent deux fois moins de récidives que les peines exécutées en détention. Donc, en l'occurrence, le travail d'intérêt général, c'est une peine qui est riche, puisqu'elle permet, au-delà du suivi avec un conseil d'insertion et de probation, de rencontrer le tuteur au sein d'une structure et d'avoir des échanges, de se réinscrire dans la société pour quelqu'un qui n'était pas, qui était pas inséré nécessairement, ou en tout cas qui était dans un sentiment de relégation, et de travailler donc autrement. Alors que, paradoxalement, on prononce de moins en moins de travail d'intérêt général, qu'effectivement, on prononce de plus en plus de peines d'emprisonnement, plus longues.
Malgré ce taux de récidive intéressant.
Oui.
Alors, on peut se demander aussi, c'est la question que je me suis posée en préparant cette émission, si on n'est pas finalement dans un logiciel un peu trop vieux, inadapté. Et je voudrais vous faire écouter ce que disait en 1980 le ministre de la Justice de l'époque, qui faisait, disons, la promotion de sa loi qui s'appelait Sécurité et Liberté à la télévision française, c'est Alain Perfitte.
La prévention ne porte ses fruits qu'à long terme. Et devant la montée de la violence, il est impossible d'attendre. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse, aujourd'hui comme hier. Encore faut-il que les policiers et les gendarmes se sentent soutenus par tous, par la justice et par vous aussi.
Sébastien Rocher, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui sur ce même type de discours ? Encore.
Oui, alors il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 40 ans. Il y a plutôt un approfondissement d'une tendance. Et la France reste, les différents gouvernements qui se sont succédés, restent dans une approche où la bonne police, c'est la police qui fait peur. Et la bonne justice, c'est la police, c'est la justice qui incarcère beaucoup. Et ça nous singularise. Alors évidemment, il y a des pays bien pires que la France. Hein. Je prends toujours l'exemple du Brésil ou de la Russie. Et ça va sans dire. Mais au sein des pays européens, disons qu'on n'a pas pris la mesure de notre retard par rapport, par exemple, à des pays qui pensent que la police doit travailler au consentement. C'est le modèle britannique. Hein. Ou, par exemple, je pense pour les pays nordiques qui cherchent à faire sortir les délinquants non violents de prison aussitôt que possible, pour les raisons qui ont déjà été évoquées, qui est qu'en fait, plus on fait sortir les gens vite de prison avec système de surveillance en milieu ouvert, plus on protège la société parce qu'on fait diminuer les taux de récidive.
Ce que vous dites aussi, c'est que les pays qui ont le moins de délinquants ne sont pas forcément ceux, d'ailleurs ce ne sont pas ceux, hein, qui ont les plus grandes prisons ou le plus grand nombre de policiers, mais ceux qui ont mis en place un État fort.
Alors oui, on sait maintenant, les études sur l'effet de l'État-providence sur la criminalité violente et les atteintes aux biens ont pris leur essor dans les années 80, au début des années 80. Et maintenant, donc, on a des dizaines d'études qui permettent de bien documenter ce phénomène. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'un État-providence qui aide les personnes en difficulté, et notamment par rapport à la perte d'emploi pour les adultes, mais aussi, par exemple, par la qualité de la scolarité dans les écoles publiques, ben, ce sont des facteurs plus puissants que l'ensemble des facteurs qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de freiner la délinquance avec l'action de la police et de la justice. Donc il faut d'abord regarder l'état social. C'est d'ailleurs le modèle européen et c'est la raison pour laquelle l'Europe est l'endroit le plus sûr de la planète.
Alors, on n'a pas le temps pour la prévention, disait en substance Alain Perfit dans ce son qu'on a écouté. Vous vouliez réagir, Jean-Philippe Daniel?
Non, je me disais qu'il y a une question essentielle qu'on survole depuis le début de l'émission, c'est une question de moyens aussi. C'est-à-dire que les policiers, évidemment, on va les mettre sur les opérations tout de suite, mais s'il y avait beaucoup plus de moyens pour la police, il y aurait du temps pour la prévention, par exemple. La justice, bon, on ne va pas résumer le manque de moyens de la justice, mais s'il y avait plus de temps pour chaque magistrat d'étudier chaque dossier, il serait traité beaucoup mieux, pardon pour cette remarque, mais surtout beaucoup
en tout cas
plus
dans les
rapidement. Regardez, une femme à Marseille a fait condamner l'État pour inaction, parce qu'elle était gênée par les rodéos. Elle a réussi à obtenir cette condamnation de l'État pour inaction. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Chaque fois qu'elle allait voir les policiers, en leur disant « j'en ai marre des rodéos dans ma rue », il leur disait « on n'a pas le temps d'intervenir, on n'a pas les moyens pour intervenir ». Manque de moyens de la police. Elle l'a fait condamner l'État au bout de 7 ans de procédure. Manque de moyens de la justice. C'est flagrant. Elle a obtenu gain de cause 7 ans après, donc il n'y a plus aucun effet, évidemment, sur sa demande de base qui était de mettre fin au rodéo qui la gênait.
Mais puisqu'on parlait de prévention, justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre ce temps de prévention, Stéphane Liévin, vous qui êtes policier ?
C'est la problématique de ce qu'on entendait chez le ministre Perfit, c'est-à-dire qu'effectivement, la prévention, elle demande du temps pour produire ses effets. Or, aujourd'hui, il y a les réformes et le rythme des réformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ministre qui arrive en fonction, il veut installer des lois, installer des dispositifs dont il peut retirer les fruits à l'échéance de 5 années. Or, une politique de prévention à l'échéance de 5 années, ça commence à peine à produire ses effets. On commence à mesurer effectivement que c'est efficace ou que ça ne l'est pas et on peut arrêter. Et c'est là que c'est problématique, parce que succède à ce ministre, un autre ministre qui, comment dit-on, déjà en politique, on est remplacé par des incapables et on succède à des imbéciles, quoi, quelque chose de cette nature, quoi. Et il explique que ce qu'a fait son prédécesseur est au mieux insuffisant ou au pire complètement nul, et il va faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est d'installer des réformes sur un temps long, tant dans la répression que dans la prévention, dans un équilibre des deux, et qui permettent effectivement de produire des effets palpables au plus proche du terrain, qui sont pas toujours spectaculaires, parce que là aussi, évidemment, la répression est quelquefois beaucoup plus spectaculaire quand on parle d'interpellation sur des rodéos ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément ce qui produit le plus d'effets à long terme en matière de sécurité de nos concitoyens.
C'est vrai, Sarah Lambert, on le dit depuis le début de l'émission, donc il y a l'application des peines qui est en but à une forme d'idéologie qui peut exister, mais il y a aussi cette histoire de temps long dont peut-être les policiers ont besoin.
Alors pour rebondir, il y a quand même deux choses. Il y a la question effectivement des moyens, mais je dirais même de l'orientation des moyens. Parce que quand on met le paquet sur la justice pénale, ben on oublie à côté la justice civile, celle qui s'occupe du quotidien et qui justement permet d'éviter d'arriver à des situations qui vont être pénalisées derrière, comme traiter une situation devant le juge des affaires familiales ou le juge des enfants. Et il y a aussi le fait mettre des millions, comme c'est le cas par exemple en matière de drogue, sur ce volet répressif plutôt que sur le volet sanitaire et social. Et ce qui est important pour nous là de porter, c'est que au-delà de cette question de moyens, il y a vraiment aussi la nécessité de penser les politiques publiques pour ne pas pénaliser l'ensemble des comportements qui sont constatés.
Sur franceinter.fr, Grégoire nous dit « J'habite dans un quartier dit sensible. Ma femme travaille au centre pénitentiaire. La pénalisation du cannabis ou des rodéos ne donne aucun résultat concret sur le terrain et remplit les prisons où les condamnés deviennent plus violents et exclus de la société. Je pense que la solution, et c'est l'une des solutions, est une urbanisation qui permette plus de mixité entre les classes sociales avec moins de place pour les voitures et pour les piétons, plus de place pour les piétons et pour les familles. » Eh bien, merci tous les quatre d'avoir été en direct avec nous dans ce débat de midi. C'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain et on s'intéressera aux cons avec cette question. La connerie est-elle la chose la mieux partagée du monde ? Et on attend déjà vos réactions et vos conneries sur l'appli de France Inter.